Ça marche ? Oui, c'est bon.
Donc je vais ouvrir cette table ronde qui est consacrée à expérimentation et recherche éthique ou bonne pratique de laboratoire. Nous allons avoir trois orateurs qui sont Mohamed Jaber, neuroscientiste, je ne sais pas si on peut dire le terme, Jean-Claude Noued, professeur de médecine, et Hélène Combrisson, vétérinaire. Je vais tout de suite, pour ne pas perdre de temps, donner la parole à Mohamed Jaber, qui est donc professeur de neurosciences, directeur de l'équipe physiologie des troubles neurodégénératifs et adaptatifs ici à Poitiers, à l'Institut de physiologie et de biologie cellulaire, UMR CNRS 61-96. Donc je lui donne la parole.
Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Alors je vais être très pragmatique et procéder, puisque c'est une table ronde, assez rapidement à répondre à des questions qu'on m'a toujours posé, que vous vous posez, que vous ne vous posez pas et à laquelle j'ai envie de répondre. Voilà. Alors, je vais aller assez vite et ça va stimuler, j'espère, la discussion. Alors, pourquoi faire l'expérimentation animale ? Parce que, bon, vous avez compris, je suis professeur en neurosciences, donc je suis le méchant de la journée, celui qui dirige une équipe et qui fait justement de l'expérimentation animale. Alors, effectivement, on a dit tout à l'heure, on ne fait plus de vivisection, on fait de l'expérimentation animale. Pourquoi on fait de l'expérimentation animale ? Pour deux raisons, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer une heure. Premièrement, pour comprendre le fonctionnement des organes, des tissus, des cellules et des molécules. Donc, pour comprendre. Deuxième raison, soigner, éventuellement guérir. À partir de l'animal, comprendre pour pouvoir soigner et potentiellement guérir. Pourquoi ne pas remplacer l'animal par un modèle animal, par un modèle plutôt informatique, théorique ou par des modèles cellulaires ? Tout simplement parce que nos connaissances sur les systèmes physiologiques n'ont pas atteint un niveau de sophistication tel que ça nous permet de les modéliser d'une manière correcte. Si on le fait, on fera des erreurs et on fera des extrapolations qui seraient erronées. Et à partir de ces extrapolations, on ferait des essais directs sur l'homme qui seraient potentiellement dangereux. Le passage à l'animal avant commercialisation d'une molécule pharmacologique ou avant un nouveau procédé chirurgical ou un nouveau traitement est aujourd'hui obligatoire. Sans cela, il nous sera impossible de proposer de nouveaux traitements ou de nouvelles pistes thérapeutiques ou d'acquérir de nouvelles connaissances. Donc, nous ne savons pas le faire, tout simplement. Nous ne savons pas modeler un tissu, nous ne savons même pas modéliser une cellule. Nous ne savons même pas modéliser par ordinateur ou très mal, ne serait-ce que la transcription de l'ADN, à savoir comment nos gènes sont traduits en protéines. On sait comment ça se passe, mais le modéliser de manière fidèle, nous ne savons toujours pas le faire. Alors pourquoi ne pas se limiter à l'expérimentation humaine, à savoir considérer que les animaux, ça sort de ma spécialité, considérer que les animaux sont nos égaux, et puisqu'il faut expérimenter. Alors, ce n'est pas la peine d'expérimenter sur l'animal, puisque c'est pour le bien humain, expérimentons sur l'humain. Bien entendu, il y a des meilleurs conférenciers que moi sur le sujet. Pour des raisons éthiques, sociales et politiques, il est extrêmement difficile d'expérimenter sur l'humain aujourd'hui. Mais surtout pour des raisons en ce qui me concerne, parce que je suis quelqu'un de très factuel, j'ai été sélectionné pour ça, surtout pour des raisons factuelles en ce qui me concerne. À savoir, l'homme, l'être humain, est hétérogène. Nous naissons tous égaux en droit, dans certains pays, dans d'autres non. Nous naissons tous égaux en droit, du moins en France. Nous ne naissons pas égaux sur le plan biologique. Nous sommes différents tous sur le plan génétique et biologique. Nous avons des couleurs de cheveux, des couleurs de peau, des couleurs, des formes de mains différentes, mais nous avons aussi des cerveaux différents, nous avons aussi des organes différents, qui sont façonnés parce que nous avons hérité de nos parents. Nous sommes aussi différents par l'histoire de chacun. Donc il est très difficile sur un plan purement académique et scientifique de travailler et de faire l'expérimentation sur l'homme de par notre nature hétérogène. Et là, Yves Sénatien-Pau l'a dit tout à l'heure, depuis une dizaine d'années, émerge une nouvelle voie en pharmacologie qui est la psychopharmacogénétique ou la pharmacogénétique. On va adapter le traitement pharmacologique à la génétique des individus. On n'en est pas loin. Donc faire l'expérimentation animale, ne serait-ce que sur l'homme, ne serait-ce que pour des raisons pratiques, elle est très compliquée, parce que nous sommes tous très différents. Les résultats sur l'un seront un peu différents des résultats de l'autre. Il nous faut travailler sur des bases génétiques relativement homogène, avoir un acquis homogène. Il nous faut travailler sur des bases environnementales relativement homogènes, avoir, des bases environnementales homogènes chez l'homme, à savoir avoir une expérience homogène, et ça, chez l'homme, c'est très difficile. Il est très difficile d'isoler un paramètre chez l'homme. Même si on veut travailler sur l'efficacité d'une molécule, et c'est ce qu'on fait en recherche clinique, on sait très bien que la personne, en dehors de la molécule qu'on va tester sur lui, il va peut-être prendre 2 aspirines le soir avant de s'endormir, il va avoir un régime alimentaire différent de l'autre personne, donc ça, ce n'est pas sans causer des problèmes. Ce n'est pas pour autant qu'on ne le fait pas, mais ça ne peut pas être une première approche. Alors qu'est-ce qu'on expérimente sur l'animal ? D'accord, vous expérimentez sur l'animal, mais vous faites quoi ? On veut comprendre, par exemple, le rôle des gènes dans certaines pathologies. Vous savez qu'il y a des maladies qui sont génétiques. Je ne veux pas en faire quoi là-dessus. Donc, pour comprendre le rôle de certains gènes dans les pathologies, il est indispensable de créer ces pathologies chez l'animal d'une manière artificielle. Et pour cela, on fabrique ce qu'on appelle, dans le jargon, des animaux transgéniques, des animaux mutants qui vont mimer, d'une manière extrêmement incomplète, une pathologie humaine. Puisque j'aborde le terme incomplet, on ne peut pas travailler sur des modèles animaux sans pour autant être conscient que les modèles ont leurs limites. Quels que soient les modèles sur lesquels vous travaillez, si vous n'êtes pas conscient d'une part de l'intérêt et d'autre part des limites, vous allez faire des extrapolations hasardeuses. D'accord ? Donc, tout en connaissant les limites des modèles animaux, il nous est indispensable de créer chez l'animal d'une manière artificielle une pathologie qui mime imparfaitement une pathologie humaine afin de comprendre la pathologie et d'essayer de proposer des traitements. Qu'est-ce qu'on fait chez l'animal ? On essaye de comprendre, par exemple, le rôle de l'environnement sur notre physiologie. Quel est le rôle du stress sur notre physiologie ? Quel est le rôle du manque de sommeil ? Quel est le rôle de l'exercice physique ? Et c'est relativement facile de comprendre cela chez l'animal. Comment le stress va modifier notre physiologie ? Comment le stress va modifier notre réaction avec l'environnement ? Chez l'animal, on sait très bien le faire. Donc, rôle des gènes, rôle de l'environnement. On peut comprendre aussi le mode d'action des médicaments. Et là, c'est un paradoxe. Parce que dans la croyance populaire, on pense que la plupart des médicaments sont issus de l'expérimentation, enfin d'une recherche chimique dans un premier temps, après on expérimente chez l'animal, après on le met sur le marché. C'est effectivement ce qui se fait depuis 20 ans. Mais avant, on procédait de manière tout autre, parce qu'on n'avait pas les outils. On essayait chez les patients une multitude de médicaments qu'on avait dans le tiroir, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui marche, et on dit, ça marche, on va l'essayer, on va le garder pour traiter la pathologie. Et plus tard, on comprend comment il marche. Je donne l'exemple classique du sel de lithium, qui est utilisé pour traiter les psychoses maniaco-dépressives. C'est utilisé depuis 30 ou 40 ans, mon collègue médecin va peut-être me corriger, mais depuis longtemps, on a compris comment marche le sel de lithium et pourquoi il peut traiter des psychoses qu'il y a à peine une quinzaine d'années. Donc on peut utiliser les animaux aussi pour comprendre comment fonctionne une certaine classe de médicaments, pourquoi, afin, grâce à cette connaissance, d'élaborer de nouveaux médicaments qui soient beaucoup plus sélectifs et, on l'espère, dépourvus d'effets secondaires désagréables. Et donc, dans un troisième temps, explorer et proposer des nouvelles voies thérapeutiques. Je veux citer, par exemple, la stimulation intracérébrale profonde qui est utilisée aujourd'hui pour traiter des milliers de patients atteints de la maladie de Parkinson. Eh bien, les premières expériences de la stimulation cérébrale profonde pour traiter la maladie de Parkinson, pour soigner, parce qu'on guérit presque de rien, pour soigner la maladie de Parkinson, a été effectuée chez le singe. Et des dizaines de singes ont été nécessaires avant que cette technique puisse être transposée à l'homme. Donc il y en a plein d'autres exemples, il ne s'agit pas ici de faire un catalogue, mais l'expérimentation animale aujourd'hui aboutit, heureusement, parce qu'il ne s'agit plus de vivisection, le but ultime c'est d'arriver à l'homme, aboutit à des nouvelles pistes thérapeutiques chez l'homme. Alors sur quel type d'animal on travaille ? J'ai presque fini, vous voyez, ça va être très court. Sur quel type d'animal on travaille ? Sur tous les animaux. On travaille sur des nématodes, sur des vers de terre. On travaille sur la mouche de vinaigre. Et ces deux animaux ont été essentiels pour comprendre la génétique de la formation des organes et la formation des mains, la formation des pieds, la segmentation, comme on appelle ça dans notre jargon. Ils étaient essentiels pour comprendre comment le corps se segmente au fur et à mesure du développement. On travaille sur l'aplésie. C'est un mollusque qui ressemble beaucoup à l'escargot qu'on consomme là, qu'on va consommer dans quelques semaines de manière outrancière avec les vacances de, avec les fêtes de Noël. L'aplésie, c'est un mollusque banal, californien. Et Eric Kandel a travaillé sur l'aplésie pour comprendre des choses assez complexes finalement sur ce mollusque, pour comprendre ce que c'est que la tolérance. Pas la tolérance dans le terme psycho, tolérer l'autre. Qu'est-ce qui fait que nous sommes capables d'ignorer des informations qui ne nous sont pas utiles? Par exemple, qu'est-ce qui vous permet de dormir à côté de la gare avec les trains qui passent toutes les nuits? Vous ne dormez pas la première nuit. Au bout de 6 mois, quand vous êtes étudiant, vous n'avez pas d'argent, vous êtes obligé d'avoir l'appartement à 400 euros en face de la gare. Qu'est-ce qui fait qu'au bout de 6 mois, vous n'entendez plus les trains? Qu'est-ce qui fait que vous tolérez ce son qui n'a plus de signification pour vous? Qu'est-ce qui fait que vous êtes sensibilisé? Qu'est-ce qui fait qu'une information qui normalement n'a pas de sens pour vous, vous y réagissez de manière très importante lorsque vous êtes dans un état émotionnel particulier? Et plus complexe encore, quelles sont les bases cellulaires de l'apprentissage? Bien, tout cela a été disséqué, entre guillemets, à savoir étudié chez l'aplésie. Et grâce à cette étude, Eric Kandel a pu avancer des hypothèses assez nouvelles concernant la mémoire et pour lesquelles il a eu le prix Nobel en 2000. On travaille énormément chez le rat et la souris dans les laboratoires. C'est des petits animaux qui se reproduisent très bien. Une portée donne 6 à 8 petits. Ils ne sont pas chers à acheter, pas chers à élever. Ils n'occupent pas beaucoup d'espace. C'est des mammifères, des rongeurs, qui, pour plusieurs organes, ressemblent beaucoup aux organes qu'on trouve chez l'homme, à part le cerveau, puisqu'ils sont dépourvus, bien entendu, de cortex préfrontal. Mais les animaux, les rats et les souris sur lesquels nous travaillons dans les laboratoires, nous ont donné aujourd'hui une somme d'informations qui est tout à fait majeure, importante. Et l'expérimentation animale qu'on pratique sur ces animaux est standardisée d'un pays à l'autre. C'est-à-dire, quand on veut étudier un comportement donné ou une biologie pour un organe, ce que nous faisons à Poitiers, en termes de procédure, et non pas en termes de découverte, en termes de procédure expérimentale, est la même chose que nos collègues en Australie, aux États-Unis ou dans d'autres pays d'Europe font. Donc il y a une reproductibilité de la procédure expérimentale d'un laboratoire à l'autre, ce qui nous permet de pouvoir comparer les résultats et avancer plus vite. Alors le chat, malheureusement, je sais que c'est mignon, mais c'est toujours utilisé pour étudier le sommeil, parce que le chat a des phases de sommeil qui ressemblent beaucoup aux phases de sommeil chez l'homme. On estime à 25% le nombre de personnes qui souffrent ou qui vont souffrir ou qui ont souffert au cours de leur vie d'un trouble de sommeil. Comprendre les phases du sommeil et les manières de traiter des troubles de sommeil, ben ça passe par la compréhension du sommeil chez le chat. Le singe, on en a parlé. Avant de pouvoir procéder à des expérimentations chez l'homme, le singe est devenu une quasi-étape obligatoire, quoique maintenant, on le fait d'une manière beaucoup moins systématique qu'avant, ne serait-ce que par les lois qui ont changé et dont on a parlé ce matin. J'arrive à la dernière question. Mais qui contrôle tout ça? Eh bien, on est, à mon avis, de chercheurs, et je sais que nos collègues de droit ne seront pas d'accord, on est beaucoup trop contrôlé. On est vraiment contrôlé à un tel point que ça devient vraiment pénible. On est contrôlé par un comité local d'éthique. On est contrôlé par la direction départementale des sciences vétérinaires. Donc ça, c'est un truc, je dirais, national, quoi. On est contrôlé par un comité de vétérinaires locaux qui vont regarder le protocole expérimental, les drogues qu'on va utiliser, tout ce qu'on a fait. On va subir 3 semaines de formation à l'expérimentation animale, à suite de laquelle on sera sanctionné par un examen. Et si vous ne passez pas l'examen, vous n'avez pas l'autorisation d'expérimenter sur l'animal. On est contrôlé au niveau national aussi. On est contrôlé par un comité régional d'éthique, à qui on envoie aussi le protocole expérimental. Il est situé pour nous à Bordeaux. Et on est contrôlé, bien entendu, par la législation européenne. Si avec tout ça, on arrive à faire l'expérimentation animale, je peux vous dire que c'est que nous obéissons à des règles extrêmement strictes. Voilà. J'arrête mon intervention.
Merci beaucoup. Pardon d'abord de ne pas avoir donné le titre de votre intervention, mais vous l'avez, elle a été implicitement... J'ai oublié ça. Merci d'avoir... présenter l'utilité de l'expérimentation animale au point de vue médical, s'il fallait le faire. Vous n'êtes pas un méchant, parce que dans la mesure où nous consommons un médicament, nous sommes tous des méchants ici, à ce titre-là. Donc, il fallait le dire. Donc, bien entendu, je pense qu'il y aura des critiques. On va enchaîner dessus sur les 2 autres exposés et éventuellement permettre au débat de se faire après. Donc, je vais tout de suite donner la parole à Jean-Claude Nouette, qui est médecin biologiste, professeur à la faculté de médecine, et donc il va nous parler de l'expérimentation dans l'enseignement.
Oui, c'est un sujet un petit peu pointu. Là, aujourd'hui, il y a des sujets généraux extrêmement importants, philosophiques, juridiques. Celui-là, c'est un point concret. J'ai proposé ce sujet parce que, finalement, on l'oublie un peu trop souvent. J'ajoute à la liste, enfin, au titre que vous m'avez donné, cette précision, je suis président de l'actuelle fondation Droit animal, éthique et science, ce qui fait que c'est un sujet de l'expérimentation qui m'intéresse depuis bien longtemps. Donc, expérimentation sur l'animal dans l'enseignement. Il nous faut commencer par rappeler le cadre juridique de cette expérimentation. L'article R214-87 de notre Code rural n'autorise l'expérimentation sur les animaux vertébrés vivants qu'à la condition d'avoir un caractère de nécessité, de ne pouvoir être remplacé par d'autres méthodes de recherche et d'être réservé à quelques domaines bien précis qui sont écrits dans le texte du Code, parmi lesquels l'enseignement supérieur, l'enseignement technique et les formations professionnelles conduisant à des métiers qui impliquent d'expérimenter sur l'animal. Première remarque, il n'y a plus, depuis le décret de 87, c'est-à-dire ce qui était avant l'article du Code rural, il n'y a plus d'expérimentation sur l'animal vivant dans l'enseignement secondaire. Cette réglementation est claire, donc. Uniquement les enseignements de type supérieur sont autorisés à organiser des manipulations expérimentales. Voyons ce qui en résulte, à la fois quant au nombre d'animaux, à leurs espèces, au type d'expérimentation, et puis ensuite nous tenterons de tirer quelques leçons. Des renseignements très précieux sur les divers types de manipulations étaient attendus d'une enquête commandée en octobre 2008 la Commission nationale de l'expérimentation animale par la ministre de la Recherche et le ministre de l'Agriculture visant, je cite les termes de la lettre, à dresser la liste des formations d'enseignement supérieur dans lesquelles l'expérimentation animale peut être pratiquée et ensuite d'évaluer la pertinence de ces pratiques. L'enquête a été lancée dès la fin de 2008, mais elle a été plutôt mal reçue, elle a été difficile à mettre en œuvre. Des réponses difficilement obtenues révélaient la crainte d'une limitation ou d'une interdiction de l'usage de l'animal. Néanmoins, l'enquête a été relancée et Jean-Pierre Clos, notre collègue pharmacien chargé de cette mission, va pouvoir commencer la tournée de ses visites d'équipe pédagogique. C'est une très lourde enquête puisqu'elle s'adresse à tous les établissements d'enseignement supérieur, aussi bien facultés que grandes écoles, etc. Et en choisissant ce sujet, je pensais qu'on pourrait avoir les résultats. Nous ne les avons pas, donc je ne peux pas fournir sur ce point de données récentes et détaillées. Je ne peux citer que quelques types d'expérimentation que chacun peut aller consulter d'ailleurs sur les sites Internet, notamment dans la filière de physiologie animale, qui est probablement celle où l'animal est le plus fréquemment utilisé, les espèces utilisées dans l'enseignement sont le rat, la grenouille et le lapin, les plus fréquemment. Il semble que seul le rat subisse une expérimentation in vivo, toujours sous anesthésie, pour des études générales comme la sécrétion gastrique, l'excrétion rénale, la régulation glucidique, le métabolisme des graisses, etc. D'autres manipulations sont effectuées sur des organes isolés, prélevés sur des animaux, euthanasiés évidemment, comme des enregistrements de cœur isolés ou l'action des neuromédiateurs sur le muscle cardiaque ou la motricité de l'utérus isolé de la rate ou la motricité de l'intestin grêle. Il y a un point extrêmement important sur lequel je souhaite vivement que cette enquête apporte des précisions, c'est qu'elle s'attache à bien distinguer d'une part les manipulations à type de travaux pratiques organisés dans le cadre d'une formation générale en biologie animale et d'autre part des manipulations qui sont liées à l'apprentissage de techniques ou de gestes nécessaires à l'exercice d'un métier. Ce sont deux types de manipulations au cours de l'enseignement qui sont complètement différents quant à leur finalité et quant à leurs conséquences. En revanche, pour les chiffres et les statistiques, nous disposons du dernier rapport triennal de la Commission européenne, tout publié tout récemment, sur les nombres d'animaux utilisés à des fins expérimentales et à toutes autres fins scientifiques dans l'Union européenne les chiffres sont de 2007 pour la France et de 2008 pour les autres pays. Je vais citer les chiffres principaux. Je ne vais pas faire de tableau, d'abord parce que personne n'y comprend rien et c'est généralement pas lisible et personne n'en retient rien. Ce qu'il faut retenir, c'est des chiffres qui fixent les idées. Nombre total d'animaux utilisés en France en 2007, toutes expérimentations confondues, dans tous les domaines qui sont autorisés, dans tous les établissements, qu'ils soient privés ou publics, 2 328 380. Nombre d'animaux utilisés dans l'enseignement et les formations, 55 573, soit 2,39% du total général. Principalement des rats, 19 000, des souris, 14 000. Pour le moment, retenons ce pourcentage important, 2,39%. Ces chiffres n'ont guère d'autre signification que leur importance. Mais on peut tirer des éléments en manipulant les chiffres, en les confrontant, par exemple, à ceux des autres pays, puis à ceux des enquêtes antérieures. Pour l'ensemble de l'Union européenne, le rapport de la Commission européenne indique le total de 12 millions d'animaux utilisés dans la recherche expérimentale en Europe, dont 207 457 pour l'enseignement et les formations, soit un pourcentage enseignement par rapport au total de 1,73%, France 2,39%. Examinons maintenant les résultats de divers autres pays. Grosso modo, quand on observe tous les tableaux que fournit le rapport européen, les pays se classent en deux grandes catégories, assez distinctes. Dans l'une, les pourcentages enseignement-formation par rapport au total des animaux sont assez semblables, généralement supérieurs à la moyenne européenne de 1,73. Par exemple, 2,86% pour les Pays-Bas, 2,57% pour la Belgique, 2,56% pour l'Allemagne, 1,98% pour l'Espagne. Dans l'autre catégorie, sont nominés, comme on dit, l'Autriche, 0,87%, Suède, 0,53%, Grande-Bretagne, 0,11%, Irlande, 0,08%, et Italie, 0,06%. En chiffres bruts, des différences sont encore plus saisissantes. Par exemple, par rapport au nombre d'animaux qu'en France y étaient utilisés, je le rappelle, 55 573, l'enseignement supérieur suédois, 2 560, et Italie, 513. On s'interroge sur la raison de tels écarts. La cause serait-elle un désintérêt pour les recherches biologiques utilisant l'animal dans les différents pays? Alors, on peut chercher une espèce de critère et s'en faire une idée chiffrée pour chaque pays en rapportant le nombre total des animaux utilisés en expérimentation au nombre des habitants. Il en résulte une espèce d'index qui donne en gros une indication de l'importance, de ce que peut être l'importance de la recherche expérimentale d'un animal dans le pays en question. On ne va pas faire toute la liste des pays, je vais vous en présenter que deux, ne considérant que ces deux exemples. Avec des populations respectivement de 64 millions d'habitants et de 61 millions pour l'autre, et de nombre d'animaux utilisés de 2 328 380 et en Grande-Bretagne de 2 266 884, la France et la Grande-Bretagne ont des index identiques, 0,36 pour l'un, 0,37 pour l'autre. Il n'y a donc aucune différence entre les deux pays quant à l'importance de l'utilisation expérimentale de l'animal, en général, toutes utilisations confondues. Pourtant, au final, la proportion effective des animaux dans l'enseignement supérieur et formation par rapport à l'effectif total des animaux atteint 2,39 pour la France et 0,11 pour la Grande-Bretagne. Ça signifie, concrètement, que pendant que l'enseignement supérieur britannique utilise un animal, la Française en utilise 25. Ce n'est plus une différence, c'est une opposition. Pourtant, à constater le niveau des scientifiques britanniques, il ne semble pas que les universités de Grande-Bretagne délivrent un enseignement de mauvaise qualité. Ce n'est certainement pas par hasard que l'on trouve côte à côte Suède, Grande-Bretagne, Irlande et même Autriche. Alors à quoi rapporter ces différences ? En France, on accuse souvent, et à juste titre, le poids et le frein du cartésianisme, ainsi que de l'anthropocentrisme biblique, disons. Mais ce ne sont pas les idées préconçues de Descartes ou les préjugés de Valbranche qui pèsent en Espagne, en Belgique ou aux Pays-Bas. Et la tradition biblique est-elle vraiment en cause chez nous ? N'est-elle pas plus forte encore en Italie, qui est pourtant de loin le pays qui a renoncé le plus à utiliser l'animal dans ses enseignements supérieurs ? Et d'ailleurs, au passage, le seul pays qui respecte la liberté de conscience des citoyens, au point d'avoir légalisé l'objection de conscience à l'expérimentation sur l'animal. On est amené légitimement alors à évoquer des profondes différences culturelles, de sensibilité et d'intérêt de peuples européens à l'égard de l'animal, de sa condition et de la souffrance, d'un haut degré chez certains et d'un degré moindre chez d'autres. Il est sûr que dans ce domaine, la France a du retard à rattraper. Manifestement, elle s'y est déjà engagée parce que dans les statistiques françaises précédentes, celles datant de 2004, nous faisons la comparaison que je disais tout à l'heure avec les enquêtes antérieures, nous totalisions à ce moment-là 2 325 398 animaux, dont 72 000 pour l'enseignement supérieur, soit à cette époque un pourcentage de 3,13%. C'est donc une chute entre l'enquête de 2004 et l'enquête de 2007, une chute de 3,13 à 2,39. C'est considérable. C'est déjà considérable. Au moins, c'est encourageant. L'avenir nous poussera dans cette voie sûrement parce que la nouvelle directive du Conseil relative à la protection des animaux insiste sur la douleur de l'animal, sur la conscience que l'expérimentateur doit avoir de cette douleur, sur l'importance de l'éthique et de son enseignement, sur la nécessité de recourir aux méthodes de remplacement. C'est notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur et des formations que précisément les méthodes modernes doivent prendre toute leur importance, et plus spécialement encore dans les enseignements d'initiation visant seulement à l'acquisition de connaissances biologiques de base, et évidemment à un moindre degré dans l'apprentissage des gestes essentiels. Et à ce titre, de très nombreux outils pédagogiques sont déjà disponibles. Il y a quelques années, il n'y avait que des documents visuels, puis ensuite sont venus audiovisuels. Maintenant, l'éventail est beaucoup plus large. En particulier, on dispose maintenant de programmes multimédia, de simulations interactives, avec des dissections virtuelles ou encore des programmes informatiques qui permettent, dans une étude de fonction physiologique, de faire varier des données, d'en retrouver, de faire calculer par l'ordinateur les résultats, sans pour cela intervenir sur un animal. Il est inévitable que ces méthodes prendront le pas sur l'habitude et bien souvent, osons le dire, sur la routine. Il y a 40 ans que de tels principes ont pourtant déjà été officiellement formulés. Je rappelle la recommandation 621, adoptée par l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe le 20 janvier 71, et qui demandait précisément, j'en cite les termes, de limiter les expériences sur les animaux vivants dans l'enseignement universitaire en les remplaçant par des méthodes visuelles modernes. Depuis ce temps, nous aurions probablement pu faire mieux, ne serait-ce qu'en considérant que, formation professionnalisante mise à part, l'utilisation expérimentale de l'animal dans l'enseignement supérieur pourrait, à la réflexion, ne pas être tout à fait en accord avec l'éthique sous-jacente contenue dans le fameux article du Code rural R214-87 qui impose à l'expérimentation d'avoir un caractère de nécessité. Est-ce que dans l'enseignement supérieur, elle est véritablement nécessaire ? Et qui ne l'admet, cette expérimentation, si on ne peut pas utilement y être substitué d'autres méthodes expérimentales. Est-ce qu'on ne peut pas substituer d'autres méthodes expérimentales ? D'autres que nous y ont déjà réussi, mieux que nous, et dans des pays qui sont d'un très haut niveau scientifique. Rappelons-nous la Grande-Bretagne. Il est sûr que c'est une réforme qu'il va falloir poursuivre chez nous, pour le plus grand bien de l'enseignement supérieur, évidemment aussi le grand bien des animaux. Mais comme on sait, la France n'accepte pas facilement de se réformer.
Merci Jean-Claude Nouette pour cette très incisive description du problème. Je vais maintenant céder la place. Peut-être vous allez prendre ma place, peut-être. Je vais donc donner la parole et laisser ma place à Hélène Combrisson, qui est professeure à l'école vétérinaire de Maison Alfort.
Non, d'Alfort.
D'Alfort, pardon.
La ville est Maison Alfort, mais l'école, c'est l'école d'Alfort.
Très bien, l'école vétérinaire d'Alfort, et qui donc va nous parler du problème des comités d'éthique qui a déjà été abordé.
Je ne sais plus faire sans un PowerPoint. Voilà. Il faut le temps que ça démarre et ça va être. Voilà, donc. Ah oui, ça c'est vraiment bon.
Moi j'ai voulu le faire.
Je vais prendre le jeu avec vous parce que ce sera un petit peu plus facile. Je fais comme j'ai l'habitude avec mes diapos et debout parce que je ne sais pas, je sais pas tellement parler comme ça sans support. Voilà, donc en accord avec les organisateurs de cette journée, on a décidé qu'il fallait que je parle de ces deux sujets. En fait, c'est par rapport à tout ce qui a été évoqué jusqu'à présent, qui était très... assez théorique des sujets de fond. Ici, c'est des outils dont je vais vous parler, des outils qu'on met en œuvre au quotidien dans des structures d'expérimentation. Donc deux aspects, l'aspect formation et l'aspect comité d'éthique, exactement ce qui gêne certains, pour parler poliment. Alors bien sûr, on se fonde sur la base de l'éthique. Ça, c'est vraiment les grands principes. C'est 1959, Russell et Birch ont exprimé trois grandes lois pour avoir une attitude éthique lorsqu'on utilise des animaux en expérimentation animale. Le premier point, c'est la réduction. Donc, bien sûr, on essaie à chaque fois de trouver des moyens de diminuer le nombre d'animaux qu'on va utiliser. Le deuxième point, c'est de raffiner les méthodes. On a des méthodes qui sont de plus en plus élaborées, qui vont permettre de faire des études chez les animaux en diminuant autant que possible tous les aspects de douleur ou de souffrance. Alors ça peut être par une meilleure anesthésie, une meilleure prise en compte de l'analgésie, ça peut être remplacer des techniques invasives par de l'imagerie. Enfin, c'est tous ces progrès techniques qui vont nous permettre de limiter le dommage à l'animal. Et puis, bien sûr, si on pouvait remplacer, étant à chaque fois qu'on peut, on remplace. Il ne faut jamais penser qu'il y a les adeptes de l'expérimentation sur l'animal et les adeptes de l'in vitro. C'est pas comme ça que ça marche. En fait, dans toute équipe de recherche, il y a des aspects sur l'animal et des aspects in vitro, voire des aspects in silico, comme on dit, c'est-à-dire des simulations, etc. Voilà. Alors, pour mettre en œuvre le mieux possible ces grands principes d'éthique, deux outils. Un outil qui est de former les gens qui doivent toucher, je dirais, les animaux de laboratoire. C'est la réglementation qui nous y oblige, et la réglementation actuelle française, qui bien sûr va changer avec la transposition de la nouvelle directive, oblige à faire ces formations, donc un objectif réglementaire. Mais il faut bien penser ces formations comme étant des formations dont le but ultime est l'éthique, c'est-à-dire développer chez les gens, à la suite de ces stages, qui sont des stages courts, Mais il faut vraiment utiliser ces stages pour qu'ils aient une meilleure prise en compte de l'éthique dans ce qu'ils vont faire. Alors, ces formations s'adressent à trois catégories de personnes, ce qui correspond à des niveaux de formation initiale un peu différentes et bien sûr à des tâches derrière qui sont différentes. Le personnel d'animalerie, les techniciens, c'est-à-dire ceux qui, pour bien des choses, vont mettre en œuvre les techniques sur les animaux, et puis les chercheurs qui peuvent participer aux techniques, mais surtout qui vont être les inventeurs ou ceux qui vont écrire les protocoles. Alors, le personnel d'animalerie, il va recevoir des informations sur un certain nombre d'items qui vous sont présentés ici. Bien sûr, on va lui dire qu'il y a une réglementation, on va l'aider à bien connaître les matériels d'animalerie, les équipements, le transport, des éléments concernant les animaux, concernant la propreté, l'hygiène dans nos animaleries. C'est parmi les éléments qui ont été avancés tout à l'heure de grands progrès. Le progrès quant à la qualité sanitaire de nos animaux est quelque chose d'absolument énorme dans les années qui sont passées. Donc, on peut résumer à connaître les réglementations et les grands principes d'éthique, connaître mieux les animaux et bien connaître l'animalerie de façon à faire fonctionner l'animalerie qui est vraiment le lieu de vie des animaux. Et donc, c'est un point extrêmement important. Ces personnels d'animalerie sont des personnels qui souvent ont une formation minimale assez limitée, mais qui jouent un rôle considérable parce que c'est eux qui sont au quotidien avec les animaux. Et c'est eux qui sont parfois les premiers systèmes d'alerte s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc leur rôle est vraiment important et doit être vraiment valorisé. Alors on a ensuite des techniciens. Vous voyez que les items se ressemblent. Hein. On va avoir des items concernant la réglementation, l'éthique, concernant la technique d'animalerie. Bien souvent, on va avoir des techniciens qui vont chapeauter des équipes d'animaliers. Donc il va falloir qu'ils sachent bien prendre en compte ces histoires d'animalerie, tout ce qui est le contrôle sanitaire de ces animaleries, parce qu'il n'est pas question que nos animaux soient malades, parce que ce n'est pas bon pour eux, mais ce n'est pas bon non plus pour la recherche, parce que faire de la recherche sur des animaux malades, je parle de maladies inopinées et non prévues, n'aurait pas de sens. Ils vont apprendre, bien sûr, à manipuler, donc ils vont apprendre à connaître mieux les animaux, ils vont apprendre des techniques d'intervention. Donc, bien sûr, ça, c'est aussi des éléments tout à fait importants parce que faire une injection, ça peut être douloureux ou pas douloureux selon que la personne sait le faire ou ne sait pas le faire. Et ça, c'est des éléments, évidemment, tout à fait importants aussi. Et puis les chercheurs, bien les chercheurs, c'est ceux qui arrivent en traînant les pieds hein, chez nous pour la formation, parce qu'ils sont obligés, parce que sinon ils n'auraient pas l'autorisation d'expérimenter. Et puis ils se disent, mais de toute façon, moi je sais tout, je suis un savant. Donc c'est le plus compliqué. Mais bon, avec un petit peu d'huile dans les rouages, ça se passe quand même pas mal. Donc qu'est-ce qu'on va on va les faire travailler sur, ben, vous voyez, exactement les mêmes items, de la réglementation, de l'éthique, de la connaissance de, et là, ça c'est très important, de l'animalerie, des conditions d'entretien, de logement, d'alimentation des animaux, parce que certains chercheurs ne mettent jamais les pieds dans une animalerie, et ça je trouve ça catastrophique. Pour moi, un chercheur, il doit savoir ce qui se passe dans l'animalerie, savoir ce qui se passe quand on met en œuvre les techniques, il doit être vraiment complètement immergé dans tous les protocoles du début jusqu'à la fin. Donc, ces aspects-là. Et puis, bien sûr, des aspects de connaissance de l'animal, des aspects également que je n'ai pas soulignés jusqu'à présent, et pourtant c'est important de bien connaître le comportement des animaux de façon à adapter au mieux les animaleries aux nécessités comportementale des animaux. J'ai mis ici à titre d'exemple des petites boîtes en carton qu'on peut mettre dans les cages des rongeurs, ce qui va leur permettre de se cacher dedans ou de les ronger un peu comme ils ont envie. Donc il y a des boîtes en plastique de couleur qui permet qu'on ne les voit pas, qu'eux ne voient pas l'extérieur et qu'on les voit quand même, ou bien des petites boîtes comme ça. Il y a énormément de techniques d'enrichissement qui permettent d'améliorer. Donc, connaissance des animaux, connaissance des techniques d'intervention. Il est évident que ça, c'est indispensable pour que les chercheurs fassent le meilleur choix possible lorsqu'ils vont écrire leur protocole, lorsqu'ils vont écrire leur projet d'étude et leur protocole. Et j'organise des formations pour les chercheurs, donc je pense que je dois être à peu près à 1200 qui sont passés en formation, en stage chez moi. Et ce que j'aime entendre, c'est quand ils partent, ils me disent « Bon, je vais entrer dans mon labo et je ne vais pas regarder mes souris de la même façon. » Et là, je me dis « Ça, c'est bien, j'ai fait mon boulot. » Voilà, donc à quoi ça sert ces formations ? Ben, ça sert quand même beaucoup, bien qu'on peut se dire « C'est que quelques jours, c'est limité. Hein. » chez nous, les formations, c'est 2 semaines seulement, sauf ceux qui veulent faire de la chirurgie qui ont 1 semaine complémentaire. Mais donc, c'est quand même très limité dans le temps par rapport aux études initiales qu'ils ont faites, qui sont des études sur des années, etc. Mais c'est une occasion de, justement, se focaliser sur cette attitude éthique au travers d'une meilleure connaissance de l'animal, du milieu de vie de l'animal, des techniques à disposition. Et puis, moi, ce que j'aime bien dans les groupes que j'accueille, c'est que les échanges entre les participants sont une grande partie de la formation, en fait. Donc, ça permet de raffiner des méthodes, la qualité sanitaire, l'enrichissement. Vous voyez ici de la sciure, mais on trouve... c'est pas de la sciure, d'ailleurs, c'est des petits copeaux. On trouve des tas de sortes de litières différentes et selon les animaux, selon les laboratoires, on va choisir telle ou telle litière. Puis des choses toutes bêtes, hein, par exemple de la litière qui, au lieu d'être installée dans la cage de l'animal, va être mise dans un petit paquet en cellulose. Donc ça va faire déjà toute une occupation d'ouvrir le sachet, de sortir la cellulose. Et puis vous avez des litières avec lesquelles les animaux peuvent faire des nids. Alors là, ça dépend aussi de ce qu'on fait, parce que si on veut voir les animaux, si on a besoin de les voir tous les jours, s'ils sont dans des petits nids où on ne peut pas les voir au travers, si on doit ouvrir le nid pour les voir, bah c'est pire, enfin le remède est pire que le mal, parce qu'ouvrir un nid, ça va être extrêmement stressant. Donc là, il vaudra mieux mettre des petites boîtes en plastique où eux, ils ne voient pas au travers de la boîte parce qu'elle est coloriée, et nous, on les voit parce que nous, on voit au travers de ces boîtes-là. Donc voilà, il faut s'adapter en fonction de ce que l'on a à faire. Hein. Des bonnes méthodes d'anesthésie, hein, une bonne prise en compte de la douleur. Et puis, bien sûr, c'est un meilleur respect, donc éviter tout ce qui peut stresser. Et je cite toujours cet exemple. J'ai eu un jour un médecin extrêmement compétent, chercheur, très, très compétent, etc. Il avait comme domaine de recherche des choses en endocrinologie, en récepteur en endocrinologie. Et un jour, il m'a dit, mais j'imaginais pas que les rats, ça pouvait stresser. Oh, je dis, bah, d'accord. Ben, en mon fort intérieur, je me suis dit, ben, ta recherche, ça devait être quand même quelque chose. Voilà, la prise en compte de la douleur, ben, mieux on connaît les animaux. Vous savez, prendre en charge la douleur, c'est facile à écrire comme ça sur une diapo. Mais prendre en charge la douleur, ça veut dire être capable de la prévoir, de l'évaluer et de choisir la bonne méthode pour l'éviter ou la traiter. Mais voilà, ça ne suffit pas de le dire, hein. Il faut aussi travailler dessus. Alors, bien sûr, nos gens sont formés, ça, c'est réglementaire. Et puis, il existe en France des comités d'éthique, comme on vous l'a annoncé. Ces comités d'éthique, pour l'instant, dans la réglementation actuelle française, ils n'existent pas. Pourquoi ? Parce que quand la réglementation s'est mise en place, le législateur a fait le choix de dire « on va former les gens, les responsabiliser, mais on ne va pas mettre en place de comité d'éthique ». Entre nous soit dit, c'était assez raisonnable à l'époque, parce qu'il y aurait eu des comités d'éthique. À cette époque-là, ça aurait été catastrophique. Et finalement, ça s'est très bien passé, c'est que ce sont les chercheurs eux-mêmes qui ont commencé à mettre en place des comités d'éthique. Donc, de façon un petit peu désordonnée, parce que ça dépendait de la bonne volonté des uns ou des autres. Finalement... je dirais presque curieusement, c'est l'industrie pharmaceutique qui a mis en place les comités d'éthique en premier, parce que ça appartenait aussi à toute une politique de communication vers l'extérieur, de dire, ben, nous, on ne fait pas n'importe quoi, on a des comités d'éthique, etc. Bon, néanmoins, Ça a démarré comme ça, localement, donc au gré des uns ou des autres. Ensuite, il y a eu la mise en place des comités d'éthique régionaux. Et puis, dernière étape, la création d'un comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale qui a eu pour première tâche d'écrire une charte sur l'expérimentation animale, on va y venir. Et cette charte va servir maintenant de document de référence pour les comités d'éthique. Et donc, il a été demandé à tous les comités d'éthique existants et à tous les établissements d'expérimentation animale, de monter des comités d'éthique en suivant les principes de la charte. Donc ça, c'est une façon d'harmoniser. Et puis, le futur, c'est bien sûr cette nouvelle directive qui vient d'être signée et qui doit être transposée en droit national, mais donc qui sera applicable début 2013. Et dans cette directive, je vous en montrerai un ou deux points, peut-être qu'il faut que je me grouille un peu, dans cette directive, il est dit que les projets devront être autorisés. Donc forcément, il y aura une évaluation éthique. Alors, je rebondis sur ce qui a été dit sur Claude Bernard et on voit qu'on a les mêmes petites phrases. Donc pourquoi des comités d'éthique ? Ben, pour une bonne raison, c'est qu'on a besoin d'utiliser des animaux. Claude Bernard, il dit qu'il a le droit. Il dit qu'il est essentiellement moral de faire des expériences dès qu'elles peuvent être utiles pour l'homme. C'est ce qui vous a déjà été cité ce matin. On a exactement les mêmes citations, ça m'a fait... Ah, ben c'est bien comme ça. Mais moi, en tant que physiologiste, Claude Bernard m'appartient un peu quand même. Donc le physiologiste n'est pas un homme du monde, c'est un savant. Et là, c'est terrible, ça. Il n'entend plus les cris des animaux, il ne voit plus le sang qui coule, il ne voit que son idée. Il ne doit avoir de soucis que de l'opinion des savants qu'il comprenne, ne tirer de règles de conduite que de sa propre conscience. Et en montant des comités d'éthique, on va exactement à l'encontre de ce qu'il dit là, c'est-à-dire le chercheur, il a besoin d'animaux pour faire progresser la science, pour faire progresser la médecine, mais on n'est plus à une époque où on va le laisser décider tout seul ou même décider seulement avec d'autres savants. Comment il va s'y prendre ? Et le comité d'éthique, il sert à ça. Il sert à faire une évaluation éthique, à voir si vraiment tout a été recherché pour que cette utilisation des animaux se fasse le mieux possible. Alors donc, je vous ai dit, ce comité national de réflexion éthique a été créé en 2005. Et donc, son premier boulot, c'était d'élaborer une charte nationale sur la déontologie et l'éthique de l'expérimentation animale. Alors, dans ce comité, on trouve 14 membres. Alors, on trouve un président, bien sûr, des représentants de l'État, des personnalités qualifiées du secteur public, du secteur industriel, médical et vétérinaire, donc des professionnels. Et on trouve aussi des personnalités du domaine de la philosophie, des sciences juridiques, de la sociologie et des personnes proposées par des associations de protection des animaux et de la nature. Donc, ce que j'appelle, moi, la société. Ah, je suis allée un peu vite. Voilà. Donc, vous voyez que c'est un comité qui va, bien sûr, avoir l'État, avoir l'ensemble, enfin, un panel des professionnels, parce qu'évidemment, on ne travaille pas tous de la même façon, les objectifs peuvent être diversifiés, mais aussi et surtout, il y a une représentation de la société. Voilà la charte que vous pouvez aller télécharger. Donc, elle a été publiée en avril 2008. Hein, donc, vous voyez que c'est quelque chose de tout à fait récent. Alors, dans son préambule, elle dit que les animaux sont des êtres sensibles, capables de souffrir, dotés de capacités cognitives et émotionnelles et ayant des besoins physiologiques et comportementaux. Vous comprenez bien que ça, c'est un préambule tout à fait important. Mais elle dit aussi qu'il n'existe pas toujours de méthode substitutive pour éviter de recourir aux animaux pour la recherche, l'enseignement supérieur et la mise en œuvre des tests réglementaires. Dans toute démarche expérimentale, les hommes doivent aller au-delà de la simple application de la réglementation. Pour répondre à ça, déjà des comités d'éthique avaient été mis en place avant la charte. Ces comités d'éthique doivent prendre en compte les principes de la charte, et donc la charte existe pour ça, pour être une référence pour les expérimentateurs, pour les collaborateurs et bien sûr pour les comités d'éthique. Alors dans cette charte, un certain nombre d'articles, le respect de l'animal, les responsabilités individuelles et institutionnelles. Il est évident que la prise en compte de l'éthique, ça ne peut pas être que l'affaire des individus ou que l'affaire des institutions. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et il y a eu des chartes précédemment, par exemple pour les comités régionaux, où on parlait des responsabilités individuelles, on ne parlait pas des responsabilités des institutions. Et il y avait des jeunes chercheurs qui me disaient, bah oui, mais moi, mes animaux, ils sont dans une animalerie où ce n'est pas terrible à tel ou tel point de vue, mais moi, je ne peux rien faire, je suis un jeune chercheur, qu'est-ce que je peux faire? Ce n'est pas ma responsabilité individuelle. Il faudrait que l'institution mette les sous qu'il faut pour que ce soit mieux. Et puis des compétences. Bien sûr, je l'ai un peu souligné avec les formations, mais si on n'a pas les compétences, on ne va pas travailler correctement. Donc ça, c'est vraiment important. Oui, d'accord, je vais accélérer. Donc, les principes généraux, donc une réflexion sur le bien fondé scientifique, éthique, sociétal du recours aux animaux doit précéder la démarche expérimentale. Donc on va sauter un petit peu. Juste pour dire que dans cette charte, il est dit « Le recours à l'avis d'un comité d'éthique doit précéder toute expérimentation ». Ça, c'est un point tout à fait fondamental, puisque ça veut dire que maintenant, il n'y a plus de recherche qui doit se faire avec des animaux sans passer par les comités d'éthique. Pour moi, même si ce n'est pas encore dans la réglementation, c'est dans la charte, et je considère que c'est une obligation. C'est dans la directive, mais elle n'est pas encore déclinée. 2 minutes, il me reste. Ça va être dur. Alors, la démarche éthique va comporter un certain nombre de points qui vous ont été pratiquement annoncés par ce qu'a dit Jean-Claude Nouette sur l'utilité, la pertinence, l'absence de méthodes substitutives et l'adéquation entre les modèles qu'on choisit et les objectifs scientifiques. Un autre point important, la balance entre les atteintes aux animaux et le résultat escompté. C'est évident que si on prend la cosmétologie, là, on voit que la balance, forcément, elle va être... voilà. Et bien, on va sauter ça, ça. Voilà. Donc, tiens, voilà. Il y a la charte et puis il y a une annexe qui va décliner un peu plus précisément le rôle et le fonctionnement des comités d'éthique. Et puis il y a un petit guide qui a été fait par le GIRCOR, qui est le groupe interprofessionnel de réflexion et de communication sur la recherche. Vous pouvez aller sur son site où il y a de très nombreux documents intéressants et vous pouvez trouver ce petit guide de l'évaluation éthique des études sur animaux. Donc la charte pour finir, donc, la directive pardon, pour finir. On en a parlé. Donc, dedans, on va trouver l'obligation de demande d'autorisation des projets. Pour qu'un projet soit autorisé, il faudra une évaluation scientifique qui, évidemment, donnera le bien fondé de l'étude, un objectif scientifique sérieux et valide, et une évaluation éthique des projets. Tant pis, je pensais que j'irais plus vite. Donc, comme je vous l'ai dit, ce sont des outils. Ces outils, ils ont pour but de faire progresser l'ensemble des personnels qui sont autour de l'expérimentation animale dans l'application de ces grands principes des 3 R, en développant la motivation. Et ça, c'est vraiment important parce que la prise en compte de l'éthique au quotidien, c'est ça qui fait vraiment avancer les choses. Il faut bien aussi que les gens comprennent que le respect du bien-être des animaux ou de la meilleure qualité de vie des animaux a quelque chose à voir avec la qualité des études, parce que si les animaux sont stressés, les études, elles ne seront pas valides. Et puis, bien sûr, cette transposition qui va obligatoirement nous faire progresser. Désolée d'avoir été un peu longue.
Pardon de vous avoir coupé, mais vous avez bien vous laissez un peu de place pour le débat. On a déjà pris du retard. Donc, merci aux 3 intervenants. La question dans la salle.
Questions dans la salle. Moi, je vais poser des questions et je vais vous donner la parole après parce que, en fait, c'est la première fois que je prends des notes. Poser des questions, donc c'est un sujet qui. Voilà. Donc, je voulais demander à nos invités combien de temps vit un animal et combien il y a de pertes. Ensuite, je voulais vous dire aussi que par rapport à la formation éthique, je serais très contente si vous pouvez introduire de l'histoire, de la philosophie des sciences, parce que l'éthique en tant que telle, on est en train d'en faire une spécialité aussi pour les scientifiques, mais quid de l'histoire et quid de la philosophie dans cette éthique qui a quand même une approche très très complexe, même si on nous donne des tableaux avec des lois, etc. C'est assez complexe, je pense qu'il faudrait une formation scientifique à l'éthique. Je continue, j'en ai quatre. Grande-Bretagne, pourquoi ? Sans doute parce qu'il y a beaucoup d'associations anti-expérimentation. Il y a des... Voilà, oui. Je pense que ça joue...
Mais s'il y en a beaucoup, c'est parce que la sensibilité est plus grande.
Voilà, donc c'est peut-être culturel. J'avais une question assez impertinente pour Mohamed, mais il me connaît bien. Si la procédure est standardisée en Europe, là, j'arrive plus à comprendre, pourquoi les labos ne se passent pas les données ? Pour ça, je voulais savoir pourquoi il y avait autant de pertes. S'il y a de telles procédures qui sont aussi carrées, pourquoi autant de gâchis, sans doute, de pertes des animaux ? Donc, je voulais savoir s'il y avait des pertes des animaux. Et puis voilà, maintenant, je passe le micro.
Pour l'histoire des passages des données, c'est un gros problème. Des banques de données, les journaux scientifiques ne publient que les résultats positifs, ce qui fait qu'on peut imaginer que des résultats négatifs sont faits dans deux ou trois labos différents, etc. Il y a tout un problème de mise en route d'une banque de données. Je pense que ça va faire. Puis la deuxième remarque que je voudrais faire aussi, nous, partisans du respect des animaux, par rapport à ce qu'a dit Hélène Combrisson, nous pensons que les formations actuelles sont insuffisantes dans le domaine de la formation de l'éthique et de l'histoire des sciences.
Oui, je voulais non pas poser une question, mais réagir, parce que je fais partie justement d'un comité d'éthique en tant que personnalité extérieure. J'interviens dans une formation à l'expérimentation animale en tant qu'historien, et je suis frappé de ce que je vois au niveau du comité d'éthique lorsqu'on voit venir les dossiers, qui sont souvent présentés non pas par les chercheurs en titre, mais par souvent les post-doctorants. C'est à quel point ils n'ont pas réfléchi sur l'animal. L'animal est vraiment pour eux une boîte à outils, enfin une boîte dans laquelle on va faire des expérimentations. Mais alors, les questions de douleur, par exemple, c'est absolument ahurissant à quel point ils arrivent sans avoir réfléchi dessus. Alors, moi, j'avais fait les premières réunions, j'avais fait la remarque, mais comment peut-on travailler sur un animal sans s'occuper du stress ? Tous les gens du comité d'éthique, on est une quinzaine, ont la même position. Ce sont des animaliers, des chercheurs, etc. C'est effectivement ahurissant. Et je pense quand même que l'intérêt du comité d'éthique, peut-être que ça embête les chercheurs, mais c'est d'obliger ces gens à réfléchir à ce que c'est qu'un animal. Parce qu'autrement, on a l'impression que c'est une simple boîte inerte et qu'il n'y a aucune interaction sur les résultats. Et quand même, on a l'impression, tout de même, on a un petit rôle, même si c'est sûrement insuffisant. Je fais partie d'un comité d'éthique, c'est le Normal supérieur de Lyon, Léon Bérard et Lyon Sud. On veut, par exemple, demander aux gens ensuite s'ils publient avec leur expérience. Parce que faire des expériences pour simplement occuper les chercheurs, ça nous, à notre avis de tout le comité, ça ne sert pas à grand-chose. Bon, mais je crois quand même qu'il y a un rôle, mais je pense que les chercheurs ont besoin aussi, vous avez dit qu'ils étaient très réticents, c'est évident, ils ont besoin de réfléchir là-dessus. Et je trouve malheureusement qu'effectivement, en tant qu'universitaire, je peux le dire, les universitaires sont les plus réticents là-dessus, et beaucoup plus que les chercheurs dans le privé, ce qui est quand même un peu étonnant.
Les larrères ont parlé de la souffrance des animaliers.
Vas-y, Mohamed. Je vais avoir du mal à attendre encore des questions avant de répondre.
Donc, vas-y, Mohamed.
Ma réponse sera courte. Elle va répondre à la fois à ce que tu viens de dire, à la fois à ma collègue. Pourquoi ? C'est un fait, et vous l'avez constaté, c'est un fait que les chercheurs arrivent en ces formations en traînant les pieds. Pourquoi ? Parce qu'ils y arrivent à 30, dans les meilleurs des cas, à 40 et à 45 ans. Pourquoi ils n'y vont pas plus tôt ? Ils n'y vont pas plus tôt, tout simplement pour une question d'argent. Nous souhaitons depuis des années que nos étudiants qui sont là, parce que j'ai une dizaine d'étudiants qui sont dans la salle, que les étudiants, dès leur entrée en première année de thèse, suivent la formation niveau 1. Et pourquoi ils ne le font pas ? Parce que ça coûte cher. Parce que les universités ne peuvent pas payer 1 500, 2 000 euros par étudiant en thèse pour qu'ils suivent la formation. Moi, en tant que directeur de laboratoire, je ne peux pas payer 10 000 euros par an pour les étudiants rentrant en première année de thèse. Alors qu'est-ce qu'on fait de manière hypocrite ? On les laisse travailler sous le contrôle d'un chercheur, qui est moi, qui a suivi la formation à 45 ans, d'accord, pour attendre la sélection de ces jeunes thésards qu'il soit recruté en tant que maître de conf et en tant que chercheur CNRS INSERM avant qu'ils suivent 5 ans après leur recrutement la formation. Et pendant cette formation, en dehors des aspects juridiques, en dehors des aspects que vous avez notés, madame, en termes d'expérimentation, moi, je n'ai rien appris. Rien. Donc, ils y vont entraînant les pieds, en termes d'expérimentation. Ils y vont entraînant les pieds parce que la société ne met pas les moyens pour que les jeunes thésards rentrant en première année puissent suivre sa formation. Et ça répond aux deux questions. Voilà. Et puis de la recherche faite par des biologistes juste pour occuper leur temps, enfin, moi, j'en connais pas.
Je voudrais répondre directement à ce que vous venez de dire.
Je préfère regarder la télé. J'ai
organisé moi-même une formation de niveau 1 à la faculté de médecine Pitié-Salpêtrière. C'était un DU. Les droits d'inscription étaient de 100 euros. Et j'ai toujours été scandalisé de voir que pour la même formation, certains autres établissements demandaient 1 000, 1 500, 2 000 ou 3 000 euros. Il y a là un problème qui est, je n'entrerai pas dans les motivations des uns et des autres, mais je trouve qu'on peut parfaitement délivrer une formation, soit dit entre nous, elle était de très bonne qualité, pour 100 euros.
J'y participe.
Donc, c'est un problème d'argent, mais si on veut, on peut.
Oui, je voulais réagir à l'intervention de Madame Combrisson. J'ai été très sensible à la façon dont vous avez expliqué votre rôle, et je crois que tous ces chercheurs qui sont repartis de votre formation en ne regardant plus leur souris et leur rat comme avant, c'est quelque chose de formidable. Je voudrais m'en venir à la directive, parce que je crois que vous ne nous avez pas parlé de la directive.
J'ai mis deux diapos à la fin.
Je crois que vous nous avez parlé de la proposition du Parlement de réforme de la directive de 1986 qui a été mise en circulation en novembre 2008. Et effectivement, dans la proposition du Parlement, il y a de l'éthique à toutes les sauces. Mais dans la directive, il n'y en a plus.
Il n'y a pas le mot éthique.
Mais oui, mais c'est quand même.
Vous avez expliqué pourquoi.
Oui, pourquoi.
J'ai la réponse à ça.
Oui.
C'est parce qu'en Italie, si on met éthique, aussitôt le Vatican doit donner son avis. Alors ça complique un peu.
D'accord.
Donc ils n'ont jamais mis le mot éthique.
Et je crois.
C'est ça l'explication, alors.
Mais
ça ne veut pas dire que sur le fond, ça ne veut pas dire la même chose, mais c'est vrai. Dans le texte français, je pense qu'on remettra des mots éthiques.
Non, on ne pourra pas dans le texte français parce que j'ai le texte français et il n'y a pas le mot éthique.
Mais dans la transposition,
on ne pourra pas non plus.
Si.
Non.
On peut aller au-delà d'une directive.
Ça dépend dans quel sens. Parce que le comité d'évaluation de la réflexion éthique, à mon avis, ça ne doit plus exister parce que c'est contraire au texte de la directive qui propose un comité de la protection des animaux. C'est pas la même chose que. Et là, je crois qu'il y a un enjeu, terrible pour la transposition, parce que je vois très bien comment les choses vont se passer. Il va y avoir les expérimentateurs qui vont dire on a déjà ça, ce sont nos comités éthiques, et c'est pas ça du tout. Si le droit de l'Union européenne a un sens, dans le préambule de la directive, on a pris la peine de préciser que le bien-être des animaux considérés comme des êtres sensibles était une valeur de l'Union européenne, c'est pas tout à fait par hasard. Si dans le projet, dans le préambule de la directive, on a bien pris la peine de préciser que ce n'était qu'une étape intermédiaire vers le but définitif qui était la suppression de toutes les expérimentations sur les animaux, c'est pas tout à fait par hasard. Et je vois bien qu'il va y avoir un combat de titans dont les tenants de la défense des animaux resteront sans doute trop à l'écart, parce que pour la mise en œuvre des autorités qui délivreront les projets, ça ne devra plus être l'éthique, ça devra être le droit. Et je vous rappelle que dans la directive, comme dans la proposition du Parlement, il est bien précisé que les évaluations devront se faire après une vérification de la conformité des projets aux exigences de la règle des 3 R. C'est plus l'éthique. et on va vraiment changer de planète.
Les 3 R, c'est l'éthique.
Et je pense que ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est attirer l'attention sur l'importance de la mise en place des autorités nationales, que certains vont vouloir édulcorer en disant « ce sont nos comités d'éthique, allons-y, il n'y a rien à faire », et ceux qui devraient se mobiliser en disant justement, l'éthique a disparu, Vatican ou pas Vatican, peu importe, de toute façon, le Vatican ne fait pas partie de l'Union européenne.
Ah. Mais l'Italie, oui.
C'est réglé.
Il y a deux, trois questions, quatre questions, il faut que je gère le temps, là.
Bonjour, alors moi je m'appelle Thierry Ferreira, je suis enseignant en biologie. Donc j'ai vraiment adoré cette présentation et je voudrais revenir en fait sur l'intervention de Mohamed. Parce qu'en fait je crois que tout a été dit dans cette table ronde. Mais, je crois qu'effectivement quand on est scientifique, on manque d'empathie par manque de formation envers les animaux. Ça, ça me semble évident. Et l'autre point, c'est... ce que Mohamed, tu as mis en avant, c'est la fin justifie les moyens. C'est-à-dire qu'on est dans cette démarche que, effectivement, pour sauver des vies humaines, pour développer des médicaments, pour le bien de l'humanité, on doit passer par là. Et de fait, couplé à ce manque d'empathie, on arrive à certains excès. Le problème, c'est que dans ce que tu dis également, tu dis on est bloqué, ça va. On va avoir des problèmes dans notre progression de par ces comités d'éthique. Le problème, c'est que si nous-mêmes, on est...
Et je ne l'ai pas formulé comme ça. Mais
je
te laisse présenter la question.
Bien sûr, mais je vais au-delà. Je caricature un peu, mais je pense que sur le fond, c'est un peu ça. Le problème, c'est que si nous-mêmes, on est en position d'évaluer la nécessité donc de nos recherches, on est tous des monstres gonflés d'orgueil. Donc, de fait... on va trouver que la démarche dans laquelle on s'inscrit est légitime et nécessite ce type d'expérimentation. Et de toute bonne foi, je veux dire de toute bonne foi. Si je donne un exemple, je m'intéresse au diabète de type 2 chez les patients obèses. Donc, de fait, je peux justifier un certain nombre d'expérimentations en disant il y a 135 millions de patients atteints par des diabètes de type 2 dans le monde. Donc, de fait, je peux justifier ceci ou cela. Si je me distancie, je peux aussi le raisonner différemment en me disant finalement, les diabètes de type 2, obésité, est-ce que raisonnablement, il ne faudrait pas plutôt limiter l'obésité ? Et donc essayer de travailler en amont sur les développements de ces diabètes. Et à partir de ce moment-là, l'expérimentation ne se justifie plus. Vous voyez où je veux en venir, hein? Donc ça, c'est une prise de distance que pour des arguments qui sont... On est dans un train qui fonce, il y a une compétition internationale, il y a une notion d'urgence. Ce sont des questions fondamentales que l'on oublie de traiter. Et je pense qu'il faut absolument que l'on nous aide à prendre cette distance.
Ouais, non, mais ça fait rien, on finira par des tours à la fin. On dira tout à la fin.
Oui, d'accord. Alors, en fait, j'avais deux questions. Une à M. Jaber, un point d'épistémologie qui m'a beaucoup intéressée. Vous avez dit que, d'un point de vue pragmatique, il ne serait pas possible de faire de l'expérimentation sur l'homme en raison de l'hétérogénéité. Je résume votre propos. Et que ma question, c'est sur l'articulation entre ce constat qui rendrait invalide, au fond, ce type d'expérimentation, et de dire c'est pourquoi on utilise les modèles animaux. Donc, vous avez bien dit, on crée artificiellement chez l'animal une pathologie. Donc, ma question, c'est, au fond, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas cette même hétérogénéité d'un animal à l'autre ? Ça me semble très important. Et d'autre part, une réflexion autour de la question de la maladie. Est-ce que vous avez insisté donc sur la dimension individuelle chez l'homme, de la façon dont il développe sa pathologie, du rapport à sa pathologie, etc. Pourquoi est-ce que, selon vous, chez les animaux, il n'y aurait pas cette même hétérogénéité?
Parce que les animaux sur lesquels nous travaillons ne sont pas hétérogènes. Les souris sont des clones l'une de l'autre.
D'accord.
Ce sont quasiment des frères et sœurs homozygotes.
Et les souris clones sur lesquelles on travaille à Poitiers sont les mêmes souris clones sur le plan génétique que nos collègues en Australie ou aux États-Unis. Vous ouvrez un catalogue comme un catalogue IKEA et vous commandez le clone 1, le clone 2, le clone 3. Donc les souris sont génétiquement identiques. Par ailleurs, j'ai un peu exagéré le trait parce que bien entendu, il y a de la recherche clinique qui est bien entendu faite chez l'homme. Je voulais juste dire que pour identifier un mécanisme donné et comprendre le rôle d'un seul intervenant dans une question très complexe, il est très important que le reste des variables ne bouge pas.
Et est-ce que vous seriez d'accord pour dire quand même que cette identité génétique de tous vos animaux ne fait pas complètement disparaître quand même une forme d'idiosyncrasie peut-être comportementale de chaque individu?
Et donc, ceci est même utilisé à certaines fins expérimentales. Je suis d'accord avec vous.
D'accord.
Et puisque j'ai la parole, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit mon collègue Thierry. C'est, tout homme sensé ne peut qu'être d'accord avec ce que tu viens de dire, bien entendu.
Et ma deuxième question, c'est pour vous, Hélène. Vous avez beaucoup parlé, donc je rebondis un petit peu à la remarque de Jean-Pierre Marguenot, l'éthique que vous avez distinguée de la réglementation, de la déontologie. Bon, il y a beaucoup, beaucoup ce mot éthique, grand principe d'éthique. Alors, qu'est-ce que c'est? Parce que vous ne nous avez pas dit ce que c'était que l'éthique par rapport à la déontologie. Pour moi, tout ce dont vous parlez, c'est de la bonne pratique, c'est un bon exercice du métier, c'est de la déontologie. Et je ne vois pas pourquoi c'est ce terme d'éthique qui apparaît avec une inflation tout à fait, qui fait qu'on finit par se demander pourquoi ce terme est là partout, comme si il était, comme si les règles du métier n'étaient pas correctement suivies.
Alors, quand on parle de déontologie, on fait plus allusion à la façon dont vont être traités les dossiers, c'est-à-dire ne sont pas acceptables dans un comité d'éthique que des concurrences entre des personnes puissent altérer le jugement, ne sont pas acceptables que des données qu'on connaît au travers des comités d'éthique soient... on est sous le secret. Enfin, c'est ce genre de choses. Hein. La déontologie, c'est la façon dont on va traiter les dossiers. Alors, le terme d'éthique, il est évidemment, pour une philosophe, totalement inapproprié. Parce que nous, ce qu'on fait là, c'est complètement technique. C'est-à-dire qu'on va peser le poids de l'intérêt scientifique d'un protocole ou d'un projet par rapport aux dommages imposés à des animaux. Et on va regarder si déjà on conclut c'est justifié d'utiliser des animaux, on va regarder précisément dans toutes les techniques utilisées si les meilleurs choix ont été faits à chaque fois. Ça peut être le meilleur choix quant au choix du modèle, quant à la méthode d'analgésie, quant à des choses très importantes qu'on va voir. C'est par exemple ce qu'on appelle les points limites, c'est-à-dire définir des critères qui font qu'il est inutile de laisser les animaux souffrir plus longtemps. On va décider de faire une euthanasie à tel moment du développement d'une maladie, par exemple. Tous ces critères-là, c'est complètement technique. Mais ça répond à un questionnement éthique qui est, d'accord, on utilise des animaux, mais il faut se donner des règles de façon à minimiser autant que faire se peut la souffrance animale. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Mais peut-être que le mot éthique n'est pas approprié. Vous savez, au Canada, ça s'appelle des comités de protection des animaux et c'est peut-être beaucoup plus juste.
C'est-à-dire que je pense que le fait de dire on va essayer de mettre en œuvre des procédures pour éviter que les animaux souffrent, et j'ai entendu par hasard des étudiants parler d'expériences qu'ils faisaient eux-mêmes sur des souris, disant il me faudra encore de l'anesthésiant. Oh ben écoute, c'est pas la peine, dans 10 minutes, de toute façon, tu la tues, donc on peut bien finir comme ça. Bon. Donc ça, pour moi, ça fait partie, si vous voulez, d'une bonne pratique de l'expérimentation. Et je crois que si on met le mot éthique partout, on empêche de poser d'autres types de questions. Là, vous faites allusion à une balance utilitariste qui est tout à fait, qui peut tout à fait être prise en compte. Mais je trouve que ce mot finit par faire un peu écran. Voilà, j'ai terminé.
Quelqu'un parlait des animaliers, Raphaël Larrère a travaillé sur la souffrance des animaliers, je pense qu'il faut en parler
bien
aussi,
sûr, bien sûr.
Que les gens qui travaillent avec les animaux, c'est pas, même s'ils ont des formations, c'est absolument pas évident. Donc Raphaël Larrère avait écrit un très bel article sur Lucifer. Il y a quelqu'un qui avait soutenu une thèse justement sur ce sujet. C'est important aussi de savoir que les gens qui travaillent avec les animaux, les éleveurs, etc., souffrent aussi de faire ce travail.
J'ai participé à une journée avec les animaliers de l'INRA là, il y a quelques temps et c'était vraiment très très intéressant.
Jocelyne Porcher l'a fait de façon magistrale, magistrale pour les porcs.
Elle est venue chez nous. Yves.
Oui, rapidement. Personnellement, je suis pour que l'éthique soit encore plus présente. Et je milite pour qu'on l'introduise dans l'enseignement primaire, et certains autres le font. Il y a sorti un documentaire aujourd'hui dans ce sens-là. Alors évidemment, il faut lui donner un sens. Hein, voilà, on est d'accord. Mais pour moi, c'est, l'éthique, c'est pour le vivre ensemble, et ça comprend les hommes et les animaux. Donc, pratiquement, le documentaire qui sort aujourd'hui milite pour l'introduction dès la maternelle de l'éthique, et pas en première année de thèse ou un peu plus tard, à 45 ans. Évidemment, c'est beaucoup trop tard. Donc ça, c'était un commentaire. Alors, par contre, j'ai une question très simple. Je suis surpris que les index que vous avez cités soient basés sur la population générale.
Non, mais c'est moi qui l'ai fait pour
d'accord.
essayer de me rendre
parce
compte.
Parce que
c'est pour vous présenter.
Ok.
Que,
pour essayer
de chercher à quoi ça pouvait se rapporter.
Le problème de la diminution en France, il peut être simplement lié à la baisse du nombre d'étudiants en sciences, ce qui est une préoccupation et une réalité. Et la comparaison avec l'Angleterre aussi est à prendre avec précaution, enfin avec la Grande-Bretagne, parce que le nombre d'étudiants est plus faible, à ma connaissance, pour des raisons économiques essentiellement. En France, on est très critique vis-à-vis de l'université. Je suis universitaire, donc je peux en parler à souhait. Mais néanmoins, il y a eu une politique de masse depuis 20 ans.
Voilà, hein. J'ai essayé moi-même, mais c'est simplement pour la présentation. C'est pas du tout des chiffres officiels.
Ah d'accord, je croyais que c'était un index officiel.
Ah non, pas du tout. J'ai dit que c'était des... Amusons-nous à manipuler les chiffres pour voir ce qu'on peut en tirer. On en tire quand même quelque chose, parce que la différence est quand même tellement importante entre 2,79 et 0,11% que ça n'est pas seulement la diminution du nombre des étudiants.
Mais c'est une question, hein, l'utilisation des animaux dans l'enseignement supérieur, que moi je me suis beaucoup posée parce que ça fait quand même quelques années que je suis prof de physio, donc forcément j'étais confrontée à ça. Donc quand on arrive jeune enseignant dans un laboratoire où on avait encore les expérimentations des années 30 ou 50, je ne sais pas, enfin, c'est l'historien qui peut peut-être me dire.
Ou ceux qui l'ont vécu, enfin tous les cas, pour 5 ans.
Bon, quand je suis arrivée, c'était vraiment... très, 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 très lourd, puisqu'on on préparait des chiens pour les travaux pratiques des étudiants. C'est-à-dire, on préparait des chiens, puis on montrait sur ces chiens ce qui se passait quand on stimulait le nerf vague, que ça ralentissait le cœur, machin, etc. Enfin, des choses comme ça. Hein. C'était vraiment la physiologie de grand-papa. Et maintenant, on est arrivé à ce qu'un étudiant vétérinaire dans mon école, dans ma discipline, consomme, entre guillemets, un quart de lapin. C'est-à-dire qu'il y a une seule manip avec des animaux vivants et qu'on a voulu conserver pour qu'ils aient une fois l'accès à des paramètres physiologiques en réel. Les étudiants arrivent, les animaux sont déjà anesthésiés, sont euthanasiés sans réveil, bien sûr, et on veille à ce qu'ils soient anesthésiés de façon correcte. On ne dit pas « c'est pas grave, on n'en rajoute pas ». Et donc, il y a un lapin pour 4 étudiants et une seule séance de travaux pratiques. Donc, si on réfléchit bien à l'objectif pédagogique, je pense qu'on peut arriver à limiter, pas forcément supprimer. Nous, on a vraiment beaucoup réfléchi et re-réfléchi et re-réfléchi parce qu'on est passé par par toutes les situations. Mais là, je pense qu'on a quelque chose qui est devenu un bon compromis entre la nécessité pédagogique et le nombre d'animaux utilisés. Mais ça, c'est des questions qu'il faut se poser, de la même façon que la formation des étudiants. Moi, ça fait belle lurette que j'ai dit 10 millions de fois, il faut que les gens aient la formation dans leur cursus le plus tôt possible. Donc, dans les écoles vétérinaires, il y a accès pour ceux qui le souhaitent à faire cette formation avant de sortir de l'école, ce qui est quand même la situation la meilleure, et bien sûr gratuitement. Certaines facs l'offrent, mais pas beaucoup. Moi, j'ai commencé à faire des formations chercheurs en 1991, en me disant, bon, bah, je vais faire ça 4-5 ans, puis après, ça va s'installer dans les facs, et puis, je passerai à autre chose. Et en fait, plus ça va, plus j'ai de clients. C'est pas normal du tout. Alors, bon, j'ouvre pour des écoles doctorales à des tarifs vraiment planchers. Je crois que si toutes les formations ouvrent à quelques doctorants, ce sera déjà pas mal, quoi.
Et si on le rend obligatoire, les universités s'activeraient plus rapidement.
Bon, je ne vois pas de conclusion, c'est un sujet ouvert, je crois que...
Ah oui, on peut en parler pendant des heures.
Non, on peut pas, là. L'idée n'était pas de donner une réponse définitive, bien entendu, mais de faire réfléchir les gens. Je crois que je suis très content qu'il y ait beaucoup de jeunes qui sont parmi nous, parce que c'est eux l'avenir. Et donc, je crois que je ne conclurai pas. Je vais laisser la question ouverte à la réflexion des jeunes qui sont parmi
justement, nous. Justement, les jeunes, vous restez dans la salle ou vous revenez cet après-midi? Vous êtes là cet après-midi, les étudiants? Vous essaierez de poser des questions, parce que vous parlez entre vous, mais le micro est à vous, hein, et la journée aussi. Hein.
Oui, à tout à l'heure. Il ne faut pas être timide, on n'est pas méchant. Hein.
Merci à tous, à tout à l'heure, 14h30.